おかしい、おかしい。
C'est l'heure de l'émission Dialogue entre Congolais avec Jean-Claude Mutumba Kamanga, la présentation.
Bonsoir, vacances parlementaires, quel bilan depuis les élections des députés nationaux et sénateurs depuis leur élection? Quels ont été les moments forts de leur session? Qu'est-ce qui reste à faire? En attendant de donner la parole à nos invités, qu'est-ce qu'en pensent nos auditeurs? Bientôt, James de Goma au Nord Kivu salue la maturité politique du bureau de l'Assemblée nationale pour l'application des arrêts de la Cour suprême de justice, mais il déplore la lenteur dans le traitement des dossiers et autres matières sensibles à la prochaine séance. Rigobert Kumbo-Duvira cite parmi ses lois celle sur la décentralisation et la CNI, remplaçante attendue de la Commission électorale indépendante. François Matiambe de Bukavu au Sud-Kivu se demande si la session d'octobre va-t-elle accorder la priorité à la loi sur la décentralisation et la loi organisant la Cour constitutionnelle. Enfin, pour cette série, Dani Luinda Bounia en province orientale juge le bilan négatif parce que selon lui, les parlementaires n'ont rien fait pour le peuple. À la place, ils se construisent des maisons et s'achètent des voitures. Eve Bazaïba, sénatrice du MFC et présidente de la sous-commission socioculturelle au Sénat. Nous attendons Ramazan Ishadari, député de l'Alliance pour la majorité présidentielle et secrétaire national chargé des questions électorales au sein de l'AMP et du PPRD. Nous avons aussi dans ce studio Serge Mayamba, secrétaire national adjoint chargé des mouvements des jeunes à l'UDPS, parti cher à Étienne Tshisekedi. Voilà nos invités pour ce dialogue entre Congolais. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Une semaine déjà des vacances pour les parlementaires, députés et sénateurs ont en effet clôturé leur première session extraordinaire et ordinaire depuis leur élection. Quel moment fort de ces deux sessions enchaînées? Sur 12 dossiers prévus à la session extraordinaire du Parlement, l'Assemblée nationale dit en avoir adopté la moitié. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, se réjouit du bilan de l'institution qu'il dirige, car selon lui, l'Assemblée nationale a adopté des lois essentielles à la marche du gouvernement, notamment le budget 2007 et le dossier Kaimba. On écoute le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est au téléphone de Georges Kamujova.
Je suis très satisfait et je voudrais profiter de l'occasion que vous m'accordez pour féliciter au nom de l'ensemble du peuple congolais les députés qui se sont comportés comme de vrais patriotes. En effet, en moins de 30 jours, les députés ont donné au gouvernement les moyens de sa politique prime et budget pour l'exercice 2007. Ils ont voté la loi portant statut de l'opposition, une grande première dans notre pays. Ils ont voté la loi portant le fonds d'entretien routier. Ils ont abordé au titre des débats généraux la loi portant financement des partis politiques. Nous devons aussi souligner que les députés ont examiné deux rapports très sensibles. Le premier porte sur l'application des arrêts de la Cour suprême de justice et le second sur les différents frontaliers à la frontière avec l'Angola, donc dans les territoires de Kaimba, dans les Bandundu.
Du côté du Sénat, bien qu'installé avec 4 mois de retard par rapport à l'Assemblée nationale, on se dit aussi satisfait de son bilan. 2 lois adoptées sur 3 textes prévus à la session extraordinaire, à savoir le budget 2007 et la loi portant statut de l'opposition. D'après le premier rapporteur adjoint du Sénat, les grandes retrouvailles des anciens dignitaires des régimes précédents constitue aussi l'un des grands moments de cette session au Sénat, dirigée par Léon Kingwa-Dondo, le premier rapporteur adjoint du Sénat et actuellement rapporteur intérimaire, Jean-Pierre Lola Kisanga, joint par Daniel Tambinzun.
Ces sessions ont permis à la Haute Assemblée d'abord de valider le pouvoir des sénateurs et par ricochet leur mandat. Ce moment-là fut un très grand moment de retrouvailles pour beaucoup d'entre les sénateurs. Et vous le savez, le 4/5 de membres du Sénat sont des anciens gestionnaires des différentes institutions dans les différents régimes, pour mieux dire, dans les différentes républiques qui ont précédé la 3e. Donc c'était un moment de retrouvailles extraordinaires. Mais également, la Haute Assemblée, pendant ces différentes sessions, a eu à élaborer son règlement intérieur et à organiser l'élection de son bureau définitif. Ce moment-là aussi fut un très grand moment, un moment richement fourni des débats de grands auteurs, méthodiques diversifiés, dans le respect de la différence d'opinion, de liberté et de l'indépendance des sénateurs.
Nous espérons toujours avoir le député national du PPRD AMP Ramazani Chadari, mais en attendant son arrivée, nous sommes, je vous rappelle, avec Ève Bazaïba, sénatrice du MLC et de l'Union pour la Nation, ainsi que Serge Mayamba, qui est lui secrétaire national adjoint chargé des mouvements des jeunes à l'UDPS. Alors, Madame Ève Bazaïba, oui, c'est vrai que vous n'êtes pas députée nationale, vous êtes sénatrice. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, du bilan de ces deux chambres du Parlement?
Oui, merci. Je commencerai d'abord par saluer toute la presse congolaise par rapport à la journée d'aujourd'hui qui est la journée de la presse. Ensuite, j'aimerais apporter un petit correctif en ce qui concerne mes fonctions. Je suis présidente de la commission socioculturelle. Ce n'est pas une sous-commission, c'est l'une des 8 commissions permanentes du Sénat. Alors, en ce qui concerne le moment fort, je crois que je ne vais pas revenir. C'est qu'a venait de dire le président de l'Assemblée nationale et le rapporteur adjoint du Sénat, mais je vais quand même ajouter que le moment le plus fort, c'est pendant tout le moment que nous sommes en train de discuter les lois ou les positions, même des motions, vous sentez que les mots d'ordre des partis ont difficile à se faire appliquer, compte tenu tout simplement de temps en temps les sénateurs essayer de revenir sur l'intérêt supérieur de la nation et on est en face, nous sommes en face des personnes qui ont eu à travailler, qui ont l'expérience, donc c'est l'expérience tant professionnelle que l'expérience patriotique qui joue le jeu et en plus l'expérience d'avoir passé des moments difficiles. Soit on a été à la gestion du pays et cette gestion a été récusée, il y en a la plupart qui étaient partis en exil, qui vient avec une décision de faire mieux, de corriger. Et surtout si ces personnes-là pensent que parmi eux, la plupart n'est plus en vie et que la plupart est carrément désavouée par la population congolaise. Donc ces personnes essayent de se corriger. Et avec une nouvelle classe, j'ai dit, qui vient pour essayer de faire mieux après avoir passé tout le temps dans l'opposition en train de récuser systématiquement la gestion depuis la Première République après l'indépendance jusqu'au moment où nous sommes en train de faire nos premiers pas à la Troisième République. Tout ça constitue l'énergie d'ensemble où nous privilégions plus les éléments fédérateurs. Je peux directement parler, en dehors de ce qu'avaient dit les rapporteurs adjoints du Sénat, parler par exemple de la question de la sécurité. La question de la sécurité, la motion qui a été présentée par l'honorable sénateur Amouli, qui du reste est de l'AMP, mais la question était tellement bien présentée, sans parti pris, tenant compte de l'intérêt supérieur de la nation, il a été objectif, même si ça a blessé certaines sensibilités de sa famille politique, mais c'était l'objet d'un thème fédérateur qui a mis tout le monde ensemble. Nous avons levé l'option de privilégier une mission d'information dans le nord et dans le sud Kivu pour raison et sécurité dans notre pays.
Donc,
voilà le moment le plus important et que moi, je peux aussi épingler en plus de ce que venait de dire les membres du bureau.
Ouais, donc, pour vous, tout s'est passé dans un bon esprit, si on vous a bien compris.
Et, bon, je ne dis pas tout karma s'est passé dans un bon esprit. Par exemple, le vote du bureau après le bureau provisoire, le vote du bureau, il y a la majorité, par exemple, qui pensait faire passer sa candidature au niveau de la présidence et la majorité qui, d'office, avait refusé le principe de consensus au niveau du bureau où nous avions proposé que toutes les forces politiques devaient être représentées parce que nous avions considéré le bureau du Sénat comme étant l'exécutif, le gouvernement en fait qui va donner l'impulsion dans la démarche de tout ce que nous allons faire pendant 5 ans. La majorité avait carrément refusé, disant qu'elle ne pouvait pas céder. Mais il y a eu la dynamique du groupe, la dynamique de la salle, je ne sais pas, par rapport aux affinités des relations interpersonnelles, mais plus par rapport au discours en essayant de voir qui est qui, on peut compter sur qui pour des raisons d'intérêt supérieur de la nation, comme je l'avais dit. Et on a senti tout de suite que cette minorité qui n'avait rien à dire avait essayé de faire le 50-50. Le président du bureau du Sénat, qui est de l'opposition, a obtenu 55 voix. Et il y a celui qui était le candidat du bureau à la première vice-présidente a obtenu environ 52 voix. Il y avait du 50-50. Et moi-même, j'étais candidate à la deuxième vice-présidente. J'ai obtenu 49 voix. Et la série a continué. On a vu qu'on s'est partagé la moitié presque des sénateurs. Donc, c'était un moment important, une matière à réflexion. Et c'est dans cette approche que nous allons continuer à naviguer au niveau du Sénat, j'ose le croire, jusqu'à la fin de notre mandat.
Oui, merci Madame Eve Bazaïba. Nous sommes désolés de dire que nous n'aurons plus le député national Ramazani Chadari, qui en dernière minute vient de nous dire qu'il est pris dans une réunion à la présidence de la République. Nous avons dans ce studio Serge Mayamba. Vous n'êtes pas aux institutions parce que vous êtes secrétaire national adjoint chargé de mouvement UDPS, parti cher à Étienne Tshisekedi. Mais quel est votre regard sur le travail de l'Assemblée nationale et du Sénat?
Merci, monsieur le journaliste. Je remercie aussi l'ensemble du personnel de votre radio pour l'invitation. En fait, en ce qui nous concerne, notre jugement part comme naturellement des missions même dévolues à l'Assemblée nationale, car comme vous le savez, cette Assemblée a pour entre autres missions l'élaboration des lois devant régir le fonctionnement des institutions de la République, mais aussi cette Assemblée a pour mission de pouvoir suivre, c'est-à-dire contrôler le fonctionnement notamment de l'exécutif dans sa mission, bien sûr, d'exécuter la volonté de cette Assemblée. Et en ce qui nous concerne, nous constatons que le fonctionnement de l'Assemblée a été marqué surtout par des hésitations, dans un premier temps qui concerne son fonctionnement, mais également et surtout des hésitations en ce qui concerne l'adoption des lois essentielles et même considérées comme urgentes pour le fonctionnement des institutions de la République. Vous savez, comme moi, que en ce qui concerne, par exemple, l'adoption de la loi financière, autrement dite budget, il fallait attendre presque 5 mois après pour voir l'Assemblée nationale mettre, et que dans l'entretemps le pays n'avait fonctionné qu'avec des crédits provisoires, donc sur base du budget 2006. Donc on a eu affaire à une assemblée qui avait commencé à fonctionner sans avoir de projections réelles, qui a pu fonctionner sans faire une très bonne analyse des réalités du pays. Donc on peut par conséquent estimer qu'il n'a pas existé une vraie planification, alors que ce Parlement devait commencer à faire son travail en jouant véritablement son rôle d'organe d'impulsion de l'action de l'exécutif. Donc c'est là à pousser aussi l'exécutif à son niveau à fonctionner comme nous y avons assisté, c'est-à-dire sans générer énormément d'espoir de la part de la population.
Oui, mais ça fait quand même, ce Serge Mayamba, ça fait quand même beaucoup de textes. Là, on a vu, par exemple, pour la session extraordinaire, sur 12 textes, 6 ont été adoptés, notamment le budget. Là, je pense quand même que ça permet au gouvernement de fonctionner.
Justement, je vous ai dit tout à l'heure que d'abord, ce budget a été adopté un temps suffisamment long bien après, mais à part ça, vous savez, il y a quelque chose que nous devons bien comprendre, c'est qu'ici chez nous, le plus important ne se situe pas dans l'élaboration ou dans l'adoption des textes. Le plus important chez nous se situe dans l'idée dont on se fait d'abord de ces textes et ensuite la manière dont on se met à les exécuter par notre organe, par exemple. Et vous comprendrez que faute pour le Parlement d'avoir eu à se présenter véritablement comme un organe d'impulsion, nous avons assisté et nous continuons à assister à une sorte d'hésitation, comme je l'ai dit tantôt. Vous comprendrez par exemple qu'aujourd'hui il y a des difficultés en ce qui concerne le fonctionnement des institutions provinciales, d'autant plus qu'au niveau de l'Assemblée, on n'a pas pensé privilégier une loi telle que la loi sur la décentralisation, qui devait normalement poser les bases sur les mécanismes de rétrocession tels que prévus par la Constitution du 16 février de l'année passée. Donc, faute pour les provinces de se doter de cet outil, nous avons assisté à une sorte, pas une sorte, mais on a assisté à ce conflit entre le pouvoir central et le pouvoir provincial. Nous avons vu, par exemple, que les assemblées, mues par ce souci, peut-être, de voir les gouvernements provinciaux fonctionner véritablement comme ils s'y attendent, les assemblées se sont permises, par exemple, de se réunir dans le Bas-Congo pour passer outre les intentions et les actes du gouvernement. Et nous avons vu la manière dont le ministère de l'Intérieur a réagi contre cette organisation quelque peu syndicale de l'Assemblée provinciale. Et moi, je pense que tout cela est causé par le retard enregistré par le Parlement, donc dans l'élaboration et dans l'adoption de toutes les lois essentielles, notamment la loi sur la décentralisation. Nous avons vu qu'aujourd'hui il se pose des problèmes en ce qui concerne l'administration et la distribution de la justice. Or, on aurait bien souhaité que l'Assemblée nationale s'emploie, par exemple, dans l'élaboration et dans l'adoption de la loi portant statut des magistrats. Ça aurait résolu, nous l'espérons.
Nous aurons le temps, justement, terminé votre idée.
Ça aurait résolu certains problèmes que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, alors que toutes ces hésitations font que il y a de plus en plus de doutes qui sont en train de naître dans le chef de la population et de tous les observateurs de la scène politique congolaise.
Oui, alors, sénatrice Bazaïba, donc, vous êtes satisfaite du bilan, mais d'après Serge Mayamba, il y a quand même des textes importants qui n'ont pas été adoptés au cours de cette session.
Ok, merci beaucoup. Je vais commencer par la Chambre basse, même si je ne fais pas l'avocat de la Chambre basse. Vous savez que lorsque la Chambre basse a été mise...
Donc l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale, il y a eu justement des problèmes qui sont venus à la suite même de vote au niveau du Sénat. Dans le sénatorial, il y a des problèmes dans le Bas-Congo, il y a eu le problème de Kayemba. Il a fallu diligenter des missions, il a fallu attendre, il a fallu écouter les parlementaires, donc les députés à ces sujets. Mais un bilan de la moitié, donc ça dépend de la manière dont on veut voir le verre. Le verre est soit à moitié plein, soit à moitié vide. Parce que sur 12 textes de loi, des propositions de loi à ce niveau-là et des projets qui étaient dans ces calendriers-là, il y a eu l'adoption de six textes, donc il reste 6 textes, alors que nous sommes allés, en ce qui les concerne, de la session ordinaire en session extraordinaire. Moi, je vois le verre à moitié plein. Bon, si je prends la chambre haute, nous étions mis en place en retard. Il nous a fallu d'abord mettre en place le bureau définitif et adopter notre règlement intérieur parce que nous ne pouvons pas commencer par avoir le mandat de légiférer, de contrôler l'action du gouvernement si nous-mêmes nous ne sommes pas entourés des textes qui nous sécurisent pour sécuriser les autres, c'est-à-dire la nation. Donc nous sommes avancés en ce qui me concerne et le plus important c'était de prendre la vitesse des croisières. Avec par exemple la loi sur le statut de l'opposition, une innovation dans notre pays, il a fallu une étude préalable pour essayer de revisiter les lois liberticides en termes de l'exercice politique dans notre pays, essayer de visiter des codes, de conformer les normes internationales déjà ratifiées par le gouvernement congolais en cette matière en vue d'avoir une loi qui sécurise les uns et les autres, c'est-à-dire tant l'opposition qui est dans l'institution que l'opposition hors institution. Je crois que c'est quand même un travail très important. C'est pourquoi nous avons toujours demandé qu'il y ait les matières grises des uns et des autres pour essayer de stimuler l'action.
Oui.
Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau-là. Donc l'essentiel, c'est de prendre une vitesse de croisière. Nous sommes allés même à glaner sur nos vacances parlementaires et nous ne nous en gênions pas. Nous avons dit, nous voulons à une réunion, une session extraordinaire pour que nous puissions terminer sur la loi budgétaire. Je voudrais dire quand même un mot sur la question du budget. C'est
ouais,
vrai que ça a donné à l'opinion. Nous avons adopté le budget avec le retard après avoir adopté le crédit provisoire qui, ma foi, comme Serge l'a dit, la reconduction du budget 2006. Mais il faut dire que nous sommes tributaires par certaines formules, ce que nous avons hérité de depuis toujours. Normalement, la session de septembre doit être une session budgétaire. Et pendant le mois de septembre, les trois mois qu'on vote le budget, de sorte que le budget en exercice 2008 entre en vigueur à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 janvier.
Oui.
Mais qu'est-ce qui est arrivé depuis des lirettes, depuis des années? Donc, le gouvernement congolais a toujours été tributaire des programmes des institutions de Bretton Woods. Il y a la Banque mondiale, il y a le Fonds monétaire international qui doit intervenir pour voir dans le cadre de la coopération étatique qu'est-ce qu'on donne au gouvernement congolais. Pour le moment, nous sommes dans le programme PPTE qui signifie... pays pauvres très endettés où nous devons bénéficier de certaines allégeances de notre dette si nous atteignons le point d'achèvement ou si donc le gouvernement congolais essaye d'atteindre certains objectifs de conditionnalité de ce programme-là PPTE. Tout ça, nous devons entendre que le bailleur de fonds de Banque mondiale et Fonds monétaire international donne cette ligne de conduite-là concernant la situation du Congo, de sorte que le gouvernement de son côté nous donne aussi le projet de loi budgétaire et que nous, à notre niveau, nous essayons de voir les rubriques qu'on a alloué à tel secteur ou tel secteur. Tout ça, ça prend du temps.
En un mot, qu'est-ce que vous voulez dire?
Nous avons demandé au niveau du Sénat que telle démarche puisse cesser et que nous rentrions dans les normes universellement reconnues.
Merci beaucoup, madame.
Au mois de septembre.
Merci beaucoup. Je rappelle que Dialogue entre Congolais parle ce soir de temps fort des sessions clôturées au Parlement national ainsi que des textes qui restent à adopter. Parmi nos invités, Madame Eve Bazaïba, sénatrice du MLC, Union pour la Nation. Nous devrions avoir Ramazani Chadari du PPRD qui a décliné l'offre à quelques minutes de l'invitation, je veux dire à quelques minutes de cette émission. Nous avons aussi Serge Mayamba, lui il n'est pas parlementaire mais il est secrétaire national adjoint chargé des mouvements des jeunes à l'UDPS, Étienne Tshisekedi.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-899-222.
Dernière partie de cette émission, qu'est-ce qui reste à faire au Parlement pour la session d'octobre prochain? Saluant ce qui est déjà fait dans les deux chambres du Parlement, le journaliste analyste du journal Le Phare, paraissant à Kinshasa, et qui suit de près les travaux du Parlement, pense que pour les prochaines sessions, donc les prochaines sessions devront s'apesantir sur le budget 2008, cela pour donner au gouvernement ses moyens de fonctionnement, mais selon Kenge Mukengeshai du journal Le Phare, les parlementaires devraient avant tout voter la loi sur la décentralisation. On écoute Kenge Mukengeshai et joint au téléphone par Daniel Kaminzoni.
En ce qui concerne la session prochaine au niveau des deux chambres du Parlement, moi je pense que le grand chantier restera naturellement le budget 2008. Je pense aussi que un grand rendez-vous sera la loi sur la décentralisation parce qu'il faudra remettre l'initiative à la base, il faudra prémobiliser les entités territoriales décentralisées, leur donner les moyens de pouvoir organiser leur développement à partir de la base. Et sur ce plan, vous savez que il y a un débat sur la rétrocession des 40% des recettes aux provinces et aux entités décentralisées. Il me semble que lorsque nous aurons effectivement cette loi-là, on va déterminer les modalités de cette rétrocession de telle manière que les provinces et les autres entités locales décentralisées puissent avoir les moyens de leur politique.
Voilà, Serge Mayamba, de l'UDPS, Tshisekedi, vous ne faites pas aux institutions, ça c'est déjà connu, mais lorsque vous analysez la situation politique, vous estimez que la loi sur la décentralisation, et vous l'avez déjà dit, vous pensez qu'elle est primordiale pour le reste du travail des parlementaires?
Naturellement, d'autant plus que cette loi doit permettre aux provinces, comme nous l'avons dit, de se doter des moyens de leur politique. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsque nous observons le vide dans la gouvernance qui se manifeste dans notre pays, nous remarquons que cela est surtout dû au fait que tous les mécanismes de fonctionnement de l'État sont centralisés. Tout à l'heure, nous avons parlé des moments forts du travail de l'Assemblée nationale. Vous aurez remarqué, par exemple, que lorsqu'on a eu à débattre de la question
de Kayemba, il y a eu vraiment un manque de maîtrise dans le chef des responsables, notamment du ministère de l'Intérieur. Or, il aurait fallu, par exemple, que la province du Bas-Congo soit dotée de suffisamment de moyens pour pouvoir être en mesure de suivre cette question. Donc aujourd'hui, on n'a même pas l'impression, mais il se vit une sorte de vide dans la gouvernance. Donc on a l'impression de pouvoir vraiment flotter dans un vide, d'autant plus que les actions menées par le gouvernement ne sont pas des natures à répondre véritablement aux attentes de la population.
Ça, c'est vous qui le voyez comme ça?
Naturellement, ça c'est donc ça c'est l'opinion de l'observateur. En fait, nous, étant absents de la gouvernance, nous appartenons à cette population qui vit des actions de la gouvernance. Donc, dès lors que nous constatons les choses telles que nous les vivons aujourd'hui, nous réagissons par rapport à ça. Parce qu'en fait, il faut dire que nous rapportons aussi ce que nous enregistrons dans la population. Il y a eu donc tous ces problèmes qui se sont présentés, et vous aurez remarqué faute pour l'Assemblée nationale de pouvoir adopter cette loi, nous assistons aussi à une sorte de non-prise en charge des instruments de protection de l'État. Aujourd'hui, par exemple, en ce qui concerne...
Vous parlez de quoi ?
Je parle de la question, par exemple, de la sécurité, bien que relevant du pouvoir central, sécurité du territoire national, mais il est important de voir les provinces doter des moyens leur permettant, par exemple, de relayer les situations qui se posent en leur sein. Donc c'est un peu la lecture que nous essayons de faire par rapport aux moyens qui doivent revenir aux provinces par l'adoption de la loi sur la décentralisation.
Oui, alors Madame Eve Bazaïba, sénatrice du MSC, qu'est-ce que vous dites à propos justement de la loi sur la décentralisation? Vous au Sénat, vous ne l'avez pas adopté, vous ne l'avez peut-être pas examiné non plus, à l'Assemblée nationale ce texte n'a pas non plus été adopté. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour les provinces quand on sait que la retenue des 40% des recettes provinciales en principe doit s'appliquer à partir du 1er septembre prochain?
Oui, je sais, nous allons nous organiser dès la rentrée parlementaire. J'ai suivi l'analyse de Kengemou Kengeshai. Cette question de péréquation va être réglée. Nous allons nous y mettre en termes de loi. En plus de cette loi sur la décentralisation, il y a la loi sur la CENI, la Commission nationale électorale indépendante, qui dépend aussi de cette loi-là, parce que les élections au niveau municipal, au niveau local, va être calquée sur mesure, donc va émaner de cette loi sur la décentralisation. En plus de cela, il y a la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature, la mise en place aussi de la commission économique et sociale. Tout ça, ce sont des questions importantes que nous avons déjà, au cours de différentes réunions des conférences des présidents, mises en place en ce qui concerne le plan d'action que nous aurons à appliquer pendant la session de mois de septembre.
Oui.
Donc de ce côté-là, rassurez-vous que nous allons nous y mettre sans problème.
Oui, mais il y a deux auditeurs qui ont des préoccupations à ce sujet. Il s'agit de Rigobert Kumbo d'Ouvira et François Makiambe de Bukavu. Tous les deux sont dans le sud Kivu. Ils veulent savoir, est-ce que vous aurez le temps d'adopter ces textes alors qu'on sait que la prochaine session sera essentiellement budgétaire?
La prochaine session peut être bien essentiellement budgétaire, tellement que nous avons déjà une idée de ce que nous voulons, de la loi budgétaire, des rubriques que nous aurons bien voulu par rapport au programme du gouvernement et par rapport aux questions importantes, aux aspirations de la population, surtout à caractère social. Je crois que ça ne sera pas un problème, et tenant compte même de la priorité que requiert cette loi sur la décentralisation, tenant compte de la priorité que requiert aussi la loi sur la CENI ainsi que d'autres lois que je venais de citer, et même je vous parlerai de la loi sur l'éducation, le programme national. Le programme national au niveau de l'éducation que nous utilisons, qui est d'application en République démocratique du Congo, je vous étonnerai que ça remonte de 1985, là où on dit par exemple les étudiants, l'enseignant sont tenus à respecter les principes du mouvement populaire de la révolution.
Tout ça, ce sont des choses qui nous intéressent au plus haut point et que nous devons absolument nous y mettre, même si c'est une question budgétaire.
Oui. Alors, nous avons la question d'un autre auditeur. Lui, c'est Olivier Diansosa de Kinshasa. Il veut savoir comment est-ce que le député interprète l'insécurité à l'est du pays et quelles solutions il propose. Nous allons revenir à vous, Madame Eve Bazaïba, mais d'abord à Serge Mayamba. Vous n'êtes pas député, je le rappelle, pour les auditeurs qui viennent de se joindre à nous. Vous êtes secrétaire national adjoint chargé des mouvements des jeunes à l'UDPS. Comment pensez-vous que les députés devraient s'occuper de la sécurité à l'Est pour répondre à la question d'Olivier Diansosa, auditeur de Kinshasa?
Oui, merci. Je remercie donc cet auditeur qui a posé une question très préoccupante. Je crois que tout le long de notre analyse, nous aurons tous remarqué que nous fondons notre réflexion sur l'expression d'un vide qui existe au sommet de l'État.
Oui, mais qu'est-ce que les parlementaires devraient faire, selon
vous? C'est que les parlementaires doivent jouer véritablement leur rôle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, au début de l'émission, que le rôle de l'Assemblée nationale, disons du Parlement, est entre autres de pouvoir contrôler l'action du gouvernement. Lorsque le Parlement fait des recommandations à un gouvernement, il ne faudrait pas que ces recommandations se limitent en termes de textes soumis ou proposés à un gouvernement. Il faut nécessairement que le Parlement puisse exercer une pression pour que toutes les propositions par lui faites puissent être exécutées par le gouvernement. Or, aujourd'hui, nous assistons à une sorte de complaisance dans le traitement de certains dossiers. Ça, il faut que nous puissions nous le dire. Nous avons tous suivi ce qui s'était déroulé dans le Bas-Congo, dossier Bundulia-Congo. Il y a eu des massacres. Nous, à l'UDPS, nous avons suivi la question. Et aujourd'hui, nous permettons de dire, sans peur d'être contredit, qu'il y a eu effectivement massacre dans le Bas-Congo.
Est-ce que vous pensez que les parlementaires n'ont rien fait, n'ont pas agi suffisamment, n'ont pas joué suffisamment leur rôle vis-à-vis du gouvernement?
D'autant plus qu'il a existé, et il existe clairement, des responsables de cette situation qui, jusqu'à aujourd'hui, sont à la tête des institutions qu'ils ont eu à animer au moment du déroulement de tous ces faits. Moi, je crois que le travail des parlementaires aurait consisté à pouvoir exercer une pression telle que, qu'il s'agisse de ceux qui sont en fonction ou de ceux qui pouvaient arriver, les gens prennent déjà des précautions dans la manière de gérer l'État. Donc, aujourd'hui, notre auditeur parle bien de l'insécurité à l'Est. Vous savez très bien, vous et nous, qu'il y a des gens qui ont eu à faire des promesses aux populations de l'Est sur sa pacification. Mais quels sont les mécanismes réellement mis en place pour que les populations de l'Est de la République démocratique du Congo puissent vivre cette paix à elles promises?
Voilà. Donc, nous allons terminer votre sujet.
Je dis, il n'y en a pas, d'autant plus que les efforts apparemment fournis pour permettre à notre armée de se réadapter à cette nouvelle conditionnalité de sécurisation, ces efforts ne sont pas vraiment ceux qu'on aurait souhaité voir. C'est-à-dire des efforts qu'on aurait souhaité de la part d'une vraie armée. Et tout cela est le fait des animateurs qui ne s'y emploient pas. Donc, il revient au Parlement d'exercer suffisamment de pression à ces animateurs-là pour qu'ils prennent véritablement leurs responsabilités, pour qu'ils jouent véritablement leur rôle.
Voilà, qu'est-ce que vous répondez alors, Madame Eva Leiba, vous êtes sénatrice?
Il y a quand même deux points que je tenais absolument à éclaircir. S'il y a une institution aujourd'hui qui fait pression au gouvernement, c'est bel et bien le Parlement. Et je voudrais fixer les esprits pour dire la responsabilité de la sécurité des citoyens, donc de la nation, revient à l'exécutif. En premier lieu, au chef de l'État. Ici, Serge ne l'a pas cité, le chef de l'État a bâti campagne au nom de la paix et essentiellement à l'est du pays. S'il a été voté massivement à l'est du pays, c'est au nom de la campagne par rapport à la question de la paix qui est une question récurrente non seulement pour nos populations de l'est du pays, mais pour tous les pays.
Oui, mais vous êtes parlementaire.
Je suis en train d'y arriver.
Oui, vous êtes parlementaire.
Il y a le gouvernement, je suis parlementaire. Il y a le gouvernement au niveau de l'exécutif qui a la responsabilité, qui exerce la puissance publique pour mettre l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Je vois ici la police nationale,
Je vois ici l'armée, c'est sous la coupe du gouvernement, et en dernier ressort, il y a le chef de l'État, comme je l'ai dit. Et nous,
avons des
responsabilités au niveau du Parlement, justement, de légiférer, de contrôler ces lois et de contrôler l'action du gouvernement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Les députés l'ont fait, quand nous n'étions pas encore mis en place, les députés l'ont fait en ce qui concerne le Bas-Congo. Vous avez vu défiler au niveau de l'Assemblée nationale les ministres concernés qui avaient la question de la sécurité dans leurs attributions, et nous l'avons fait aussi au niveau du Sénat lorsqu'il y a eu une motion, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la question de la sécurité, non seulement à l'est du pays, mais aussi à Kinshasa. On a parlé de essentiellement aussi de Nord Katanga, on a parlé de Ituri. Eh bien, nous avons aussi invité le gouvernement pour comprendre quelle est la responsabilité du ministre de la Défense,
oui, mais madame,
du ministre de l'Intérieur.
Madame,
nous avons diligenté une mission d'information à ce sujet, et en conclusion de cette mission d'information, nous allons nous prendre en charge, et il y aura des résolutions qui vont être tombées, et nous attendrons l'application de cette résolution.
Madame Eve Bazaïba, finalement, est-ce que votre travail en tant que parlementaire, finalement, est-ce que ça ne se limite pas seulement à des missions, des commissions d'enquête, et qui finalement n'aboutissent à rien?
Non, c'est un travail très important que d'avoir une mission d'enquête pour établir les responsabilités, tant individuelles que collectives.
Mais qu'est-ce que ça change dans le travail de l'exécutif? Est-ce que vous pensez vraiment que la population qui vous suit peut vraiment être convaincue par ce que vous dites, par le travail que vous faites, vous, en tant que parlementaire, vis-à-vis du gouvernement?
Oui, la population va en être convaincue parce qu'il y a une procédure. Il y a, par exemple, les questions d'actualité. Il y a la question orale. Il y a l'interpellation. Je vous dis, on ne peut pas enjamber les étapes. Sinon, il y a des questions que vous allez laisser en sourdine et qui vont vous rattraper par la suite. Après la mission d'information sur les questions de réalité, parce que nous connaissons la problématique de l'insécurité à l'est du pays, mais il y a des nouvelles données. Par exemple, nous l'avons suivi par voie des médias, qu'il y a des tireurs de ficelles au niveau de Kinshasa, et il y a des tireurs de ficelles ailleurs. Mmh. Alors nous devons identifier, essayer de voir les responsabilités de chacun au niveau du gouvernement, au niveau collectif des communautés, au niveau individuel. C'est alors que nous suivons les étapes telles que nous confère la loi,
Sur
l'interpellation, et après l'interpellation, s'il y a la motion de défiance, nous allons le faire. Mais ce n'est pas d'entrée de jeu où vous n'avez pas de preuves que vous allez attaquer, mais sinon, le Parlement, nous sommes en train de nous y mettre et nous n'avons pas de complaisance. N'oubliez pas qu'au sein du Parlement, il y a l'opposition.
Oui.
Voilà pourquoi nous avons voulu d'une opposition institutionnelle. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dénoncer à la radio et à la télévision. Il faut encore qu'il y ait des décisions.
Vous avez compris,
d'une décision où il peut y avoir l'impact sur le terrain, et c'est ce que nous sommes en train de faire.
On vous a compris. Je rappelle que Dialogue entre Congolais parle des temps forts des sessions clôturées au Parlement, ainsi que des tests qui restent à adopter. Nous allons vers les auditeurs pour avoir d'autres opinions de ces auditeurs avec Pamela Amonazo.
André Kakou de Kikwit dans le Bandundu trouve que le bilan de ces différentes sessions est assez bon. Il demande également aux parlementaires de fournir beaucoup d'efforts pour améliorer leur travail. Papi Kanalina d'Issiron en province orientale félicite les parlementaires pour avoir abordé le sujet de Kayemba après plusieurs reports. Toujours en province orientale, Miro Binestor pose la question suivante. Qu'est-ce qui explique cette contradiction entre l'Assemblée nationale et le gouvernement en ce qui concerne la situation de Kayemba? Enfin, Carole Bello de Kinshasa estime que le bilan est négatif sur le plan social, parce que la loi sur la décentralisation aurait fait appel à beaucoup d'embauches.
Voilà, alors on commence par vous, Serge Mayamba. Vous êtes secrétaire national adjoint de l'UDP chargé des jeunes. Beaucoup d'efforts que l'Assemblée doit fournir. Bilan négatif parce que le social n'a pas trouvé son compte, notamment avec la loi sur la décentralisation qui n'est pas encore adoptée. Votre réaction?
Oui, naturellement, nous n'avons cessé de le dire. L'effort à fournir est de rompre avec le vide qui existe au sommet de l'État.
C'est vous qui le voyez.
En fait, ce n'est pas un vide en termes de non-occupation, mais c'est un vide en termes de non-manifestation, de réaction aux attentes de la population. En fait, tout cela a causé par l'existence ou l'émergence même des puissances économiques parallèles. Et ce vide-là occasionne aujourd'hui la corruption, l'existence du contrat léonien, ce qui a même été dénoncé par les institutions internationales et plusieurs institutions spécialisées des Nations Unies, ne parlons même pas du travail abattu par les ONG dans ce sens-là. On a parlé des contrats léonais. Moi, je pense que dès lors qu'il y aura de présence visible de gouvernance, je crois que cela rapportera aux gouvernants des dividendes qui vont leur permettre de répondre à toute la planification en vue de résoudre les problèmes qui se posent dans la population. Mais il y a aussi une chose que nous pouvons dire par rapport à ça, c'est que c'est le moment pour nous de répondre véritablement aux attentes de la population. Parce que vous savez, il y a aujourd'hui des réactions, surtout du côté de cette communauté internationale qui n'a passé tout son temps qu'à légitimer les irrégularités contenues dans le processus et qui, à un certain moment, a pensé corriger. Et vous savez qu'il y a des responsables des Nations Unies qui ont même parlé de la nécessité d'une réconciliation au Congo, malheureusement, qu'ils ont orienté vers l'Est. Ce qui n'est pas normal, d'autant plus que le problème qui se pose aujourd'hui au Congo est vraiment un problème à caractère global et qui a aussi besoin de solutions de cette nature-là. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de vide parce que vous avez tout le long de l'émission évoqué la question de Kayemba. Excusez-moi, je profite de la tribune d'Okapi pour vous faire une révélation. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans une province comme le Bas-Congo, il y a une présence visible, réelle, des troupes, des militaires angolais.
Ça vous engage, en tout cas.
Ça m'engage. Je vous dis que j'ai des preuves dans un village comme Sava, au groupement Louvaka à Gombe Sud.
Mais c'est pas l'objet de cette émission, Serge Mayamba.
C'est l'un des éléments que je suis en train d'évoquer pour marquer ce vide dont nous nous parlons, donc l'absence de gouvernance réelle. Et dans cette contrée-là, je vous assure qu'il y a des gens qui occupent des contrées appelées à fournir à la population des denrées alimentaires. Donc c'est là, plonge la population dans la pauvreté et la population s'est dit réellement qu'il n'y a pas de réponse à leurs problèmes de la part du gouvernement.
Merci Serge Mayamba. Oui, Madame Eve Bazaïba, sénatrice MSC, beaucoup d'efforts à faire, c'est ce que dit vous demande un des auditeurs, notamment dans les contrats miniers. Est-ce que vous allez jouer aussi votre rôle de contrôle du gouvernement dans ce domaine?
Je vais d'ailleurs le faire à double titre, en qualité de parlementaire et aussi en qualité de membre de l'opposition. Voilà, c'est mon devoir. Et sur les questions sociales, c'est logique que j'en parle, étant donné que j'anime la commission socioculturelle. Je voudrais informer à la population le social. C'est aussi la santé, l'éducation et tout ça, mais en termes budgétaires. Vous avez entendu beaucoup de bruit que nous avons fait sur le budget qui ne valait pas le budget de la République démocratique du Congo, essentiellement sur la question sociale, les rubriques telles que la santé, les rubriques telles que l'éducation, les salaires des fonctionnaires. Nous avons essayé de réajuster le budget en termes de recettes et aussi en termes de dépenses. Donc c'est déjà très important. Maintenant, ça ne va pas se faire sentir du coup sur le terrain parce que nous venons d'adopter ce budget qui est censé de se mettre en place au fur et à mesure. Nous devons croire que le gouvernement va se tenir à cette ligne budgétaire-là et non nous amener dans des lignes extra-budgétaires. C'est là alors que le Parlement, nous allons pouvoir intervenir, que ce soit au niveau de la Chambre basse ou la Chambre haute, donc je disais l'Assemblée nationale ou le Sénat.
Oui, madame,
nous
madame,
allons réajuster encore le budget cette fois-là pendant la session de mois de septembre pour que le budget 2008 soit un budget conséquent et à la dimension de la République démocratique du Congo et tenant compte aussi de l'approche décentralisée.
Oui, madame Bazaïba, maintenant vous êtes en vacances parlementaires, vous faites quoi?
Les vacances parlementaires, c'est vraiment le grand travail. Ce ne sont même pas les vacances en soi, parce que nous descendons sur le terrain pour aller essayer de divulguer, donc de restituer le travail que nous avons fait au niveau de Parlement et en fait de recueillir les préoccupations profondes de la population, parce que nous avons même l'obligation d'en apporter un rapport et sur base de ces rapports, nous allons pouvoir étoffer le calendrier de travail en termes de loi et en termes de contrôle
contrôle de l'action du gouvernement.
On ne fait pas comme le dit cet auditeur, Dani Luinda de Boumia, que en fait les parlementaires passent leur temps à construire des maisons et à s'acheter des voitures.
Bon, moi pour le moment, je n'ai pas encore acheté la maison, j'ai mes maisons, je l'ai dit au pluriel. Je n'ai pas acheté la voiture, j'ai ma carcasse qui m'aide encore à circuler au service de la nation.
Vous vous préoccupez.
Je l'ai acheté par ma tuelle, mais rassurez-vous, nous serons sur terrain et toutes ces questions-là nous intéressent parce que nous sommes concernés, nous faisons aussi partie de la population.
Merci. Un dernier mot avec Serge Mahamba. Finalement, vous pensez que les parlementaires doivent batailler dur pour la prochaine session?
Effectivement, ils doivent batailler dur, surtout dans le sens d'amener le gouvernement à travailler pour la protection de la souveraineté et de tous ses attributs. Les parlementaires doivent travailler en cherchant à obtenir beaucoup plus de garanties dans l'application de leurs travaux. Et ils doivent aussi faire en sorte que tous les moyens de contrôle du gouvernement soit vraiment le fait d'une vraie opposition qui se retrouve entre guillemets au Parlement.
Merci donc beaucoup, merci Serge Mahamba de l'UDPS, merci à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que ce dialogue en congolais était consacré au bilan de deux dernières sessions du Parlement élu et ce qui reste à faire. Daniel Tambizoni a préparé cette émission, Nadine Foula était à la réalisation, la technique assurée par Sylvain Baouéré. Bon suivi de programme sur Radio Capitale.